Parlons Sport sur RTVFM.
RTVFM.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur RTVFM Sport, la radio qui parle du sport le lundi soir avec ma coéquipière du lundi, Valérie. Salut Valérie.
Bonsoir Jean-Yves, bonsoir à tout le monde.
Mon tech favori, Théo.
Salut Jean-Yves.
C'est la dernière, Valérie. Théo.
Eh oui, la dernière des dernières, ouais. t'es triste que je parte ou pas? Franchement, t'es triste?
Non.
Non, tu t'en... ça m'étonne pas.
non, je m'en fous, Théo, en fait. C'est la dernière de Théo ce soir aux manettes de l'émission. Tu vas nous manquer, Théo.
Et tu le penses vraiment ou...
Ben non, sinon je te le dirai pas. Notre invité du soir, Dimitri Vesch.
Bonsoir.
Dimitri Vesch, c'est le président du club de badminton, le Volant des Sept Rivières, qui inclut trois communes, Bédarides, Châteauneuf-du-Pape et Courthézon. Dimitri, c'est ça?
Oui, c'est ça, intercommunal.
Voilà, un club de bad intercommunal. Et un club de bad avec plein de belles histoires à raconter au-delà du club en lui-même, au-delà des résultats sportifs. Il y a toute une démarche derrière ce club, une démarche éco-intelligente. On reviendra avec Dimitri très longuement là-dessus dans quelques minutes. Avant ça, non, après le... Je vais pas y arriver ce soir. Dimitri, on aura les résultats. Mm-hmm. On aura aussi notre ami Jérôme Alonso, l'entraîneur du RCC 13, qui viendra nous parler de cette victoire du côté de Toulon. Une victoire acquise un peu dans la souffrance, mais acquise quand même. Et puis quelques résultats du rugby à 13, du basket, Valérie, du hand.
Oui, du basket, oui, avec Sorg, une fois de plus.
Non, ça c'est pour moi.
D'accord. Une fois de plus, c'est incliné.
Sorg, tu touches pas, c'est à moi, d'accord?
Oui, d'accord. Tu donneras ton point de vue encore.
Oh ben, je vais me gêner. Et puis, en toute fin d'émission, il y aura un coup de gueule. Le coup de gueule de la semaine qui m'a été soufflé par des gens autour de cette table, mais je n'en dirai pas plus en attendant l'invité du soir. Théo,
RTV Sport, l'invité du soir.
Allez, l'invité du soir, c'est on vous le disait, c'est Dimitri Vesch, le président, fondateur, cheville ouvrière, l'homme à tout faire du Volant des Sept Rivières. Salut Dimitri.
Bonsoir à tous.
Dimitri, j'ai voulu t'avoir parce que bon, on va pas faire le cinéma, mais on se connaît, on est copains. On est copains en dehors de la radio, mais au-delà de ça, j'avais envie de mettre le club à l'honneur, le club des Sept Rivières à l'honneur, parce que c'est une belle réussite sur plein de plans, ce club. C'est un club qui a été fondé il y a 3 ans maintenant, 3 ans, ça rentre dans la quatrième année, et puis qui s'est imposé dans le paysage. Comment on dit, badmintonistique? Non.
Dans le monde des badistes.
Ouais, dans le monde des badistes. Ouais. On t'a pris pour une espèce de luberlu quand tu es parti du tennis pour créer ce club. On le rappelle, hein, tu faisais partie du monde du tennis avec petit garçon qui était plutôt prometteur à l'époque.
Voilà, c'est ça, qui faisait partie des meilleurs Français.
Voilà. Et quand l'aventure au tennis s'est arrêtée, tu as choisi de te tourner vers le bad, on t'a pris un peu pour un fou, et finalement, et ben tu as réussi à gagner le respect de tous ces gens par une démarche plutôt intelligente, sportivement intéressante, et puis il y a tout ce qui va autour de ce club.
Tout ce qui est au niveau associatif. On a créé ce club pas uniquement pour faire un club de sport, on voulait avoir vraiment notre identité, être différent, et c'est un peu comme partout, quand on veut être différent, on est un peu moins montré du doigt, on est un peu pris pour un fou, et on doit faire ses preuves un peu plus que les autres, chose qu'on a su faire avec toute l'équipe du club, hein. Je ne suis pas tout seul, on est beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré au projet associatif, parce que c'était vraiment la base de l'association, c'est d'avoir poser un projet associatif, et nous on a voulu avoir une identité éco-responsable. L'éco-bad, l'éco-responsabilité, on a voulu en faire notre cheval de bataille, et c'est ce qui nous différencie un peu des autres clubs, et c'est ce qui plaît aussi aux gens du club, ils s'y retrouvent dedans, quoi. Donc,
ouais, derrière la création de ce club, c'est ça, il y avait une vraie démarche citoyenne, j'ai envie de dire.
Voilà, c'est ça, il y avait deux grands objectifs, c'était de faire une association qui participe à la vie de ses communes, qui soit actif sur la vie de ses communes,
on va y revenir,
pas seulement dans son sport, et de proposer aux gens quelque chose de différent. C'était aussi pour nous l'occasion de, en fait, faire une association sportive, faire des compétitions de sport, tout le monde peut le faire, tout le monde le fait. Donc,
avec plus ou moins de
réussite,
de bonheur, mais
c'est assez facile. Quand on a une association sportive, on entend beaucoup parler de performance. Mais à un moment donné, il faut réussir à ouvrir les yeux et se rendre compte où on est, quoi. On est à Pédaride. On n'a pas pour vocation de faire des champions du monde. On n'est pas l'INSEP, on n'est pas un grand club. Donc il faut qu'on se différencie par rapport aux autres. Et il faut qu'on soit... Nous, le créneau, c'est la convivialité, le sportif à sa place. On essaye d'être le plus performant sur les compétitions, on entraîne les jeunes. Je dirais plus que plutôt que de les entraîner, on les forme.
Enfin, j'allais te dire, vous n'avez pas vocation à faire des champions, mais 3 ans d'existence et déjà deux gamins qui obtiennent des résultats plutôt très intéressants. Il y en a un qui s'appelle Vèche d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. On a cette culture d'entraîner. Donc on est affilié à une fédération. Donc on est là aussi pour alimenter notre fédération en jeunes joueurs. Ça marche plutôt bien. On a deux jeunes qui vont passer au niveau national en 3 ans. C'est assez remarquable le travail qu'ils ont fait. Et derrière, on a une école de jeunes très présente avec sur le club. On est sans adhérents. Il y a 65 enfants de moins de 18 ans. Et des enfants de 4 à 11 ans, on en a une quarantaine. Donc on a travaillé beaucoup avec les centres aérés, avec les écoles, avec les petites structures associatives dans l'enfance. Et aujourd'hui, on en récolte le fruit. Et c'est que du plaisir d'entraîner ces petits. C'est là que...
C'est une démarche super intéressante parce que pour un sport dit mineur, parce que pour le coup, le BAD, c'est vraiment...
Voilà, c'est ça, c'est une petite fédération. On a la chance d'être au sport olympique.
Ouais, sport olympique, mais on parle de vous que tous les 4 ans.
On parle de nous tous les 4 ans, mais on est une fédération qui grossit. On est 190 000 licenciés quand même. Donc dans le Vaucluse, on vient de passer, dans la région, on vient de passer les 10 000 adhérents. Donc on est en constante progression et... On parle de plus en plus de nous. On a la chance d'avoir dans la région deux jeunes prodiges, ils s'appellent les frères Popov, qui sont à Fos-sur-Mer. Le plus jeune est quand même vice-champion du monde junior. Et ce week-end a été sacré champion de France élite en étant que junior.
D'accord.
Et c'est jamais arrivé dans notre fédération d'avoir des joueurs, des juniors vice-champions du monde, quoi. Donc ces enfants-là mettent en avant notre discipline. À nous de continuer à travailler dans ce sens, quoi.
Qu'est-ce qui manque au BAD pour être un sport reconnu? Parce que j'ai vu plein de fois des matchs à la télé ou même je me suis avancé quelques fois vous voir vous entraîner, etc. Mais c'est un sport super sympa à regarder. Probablement même plus que le tennis, j'ai envie de te dire, parce que ça va plus vite, il y a plus de,
voilà,
il y a plus d'action, il y a plus de rythme.
C'est plus rapide, c'est plus
presque plus physique.
C'est un peu plus physique, c'est un peu plus fantasque. Il y a beaucoup de coups qui sont un peu freestyle, comme disent les jeunes maintenant, et qui plaisent aux jeunes. Ça qui plaît aussi dans notre sport. Ce qui nous manque, c'est un peu comme toutes les disciplines. Il nous faut un champion olympique, il nous faut un champion du monde, il nous faut quelqu'un qui...
Ouais, mais j'ai envie de te dire, au tennis, il n'y a pas de champion français, et malgré
ouais,
tout...
Oui, mais il y a Roland-Garros. Il y a cette compétition qui rayonne. Sans Roland-Garros, la Fédération française de tennis, c'est rien.
Et il n'y a pas une compétition, justement, à Paris où...
Alors si, nous, on a les IFB... Les internationaux de France à Paris qui se placent à Coubertin. C'est un des événements qui nous permet de passer sur l'équipe 21, donc d'avoir un peu de médias pour notre sport. Mais ça n'a pas la même prestance que, qu'un Roland-Garros. Il n'y a pas autant d'argent, c'est pas une fédération riche. Il faut savoir que nos sportifs français, les meilleurs, se travaillent dans leur, à côté et se déplacent sur les compétitions internationales par leurs propres moyens. Donc il manque cette, cette visibilité, cette personne qui sera un peu hors du commun. Il nous manque un Rafael Nadal du badminton, ou un Roger Federer du badminton, ou un Mbappé du badminton. Il faut quelqu'un qui soit médiatique, qui rayonne. Ça, on l'a pas encore. On espère que les frères Popov pourront avoir.
Et le petit Vache, il pourrait pas être.
Il est assez fantasque, il pourrait dans la déconnade, il pourrait être bon. Mais après,
ah bon,
ça va être un peu plus compliqué. Mais et donc c'est pour ça aussi que notre fédération se détache. On est leader aussi dans l'éco-responsabilité sur d'autres domaines. On essaye d'être présent. Et ça, pourtant, on a la chance d'avoir une discipline qui est, je trouve, par rapport au tennis, qui est une grande force, qui est un vrai sport où le double mixte est une vraie discipline. Et ça, c'est une des grandes forces du badminton, c'est que les hommes et les femmes jouent ensemble à même niveau. Il n'y a pas de différence. La femme n'est pas.
Tu veux dire qu'une femme peut battre
en double.
En double mixte, oui.
Parce qu'il n'y a pas ce rapport de force comme au tennis.
Tiens, parlons avec une femme.
Voilà. Non, mais moi, je voulais revenir sur deux choses. Bon, la première, c'est volant des sept rivières. Pourquoi ? Parce que je suppose qu'il y a sept rivières qui doivent entourer entre Bédarides, voilà, Châteauneuf.
Bédarides, c'est la ville des sept rivières.
Ah, je savais pas.
Donc, oui. Voilà.
Bah, non, mais tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Demande. Pour nos auditeurs, comme ça, ils le savent. Sept rivières à Bédarides.
Voilà, c'est ça.
Il y a plusieurs clubs à Bédarides qui s'appellent les sept rivières, plusieurs assos.
Voilà.
À Bédarides, il y a la foulée des sept rivières, c'est le club de course à pied. Il y a une ou deux assos aussi qui reprennent ce nom là des sept rivières.
Ce que j'ai dit, c'était joli, tu vois.
Voilà.
Et deuxièmement, je voulais demander les qualités pour être un bon joueur de badminton. Parce que
Mêmes que moi, la légèreté, la souplesse, voilà.
La rapidité. Dimitri disait qu'il venait du tennis, donc son fils venait du tennis aussi. Je ne sais pas si c'est le même garçon.
Non, c'est pas le même. C'est l'autre. Il faisait du tennis aussi.
Voilà, parce que quand on fait, j'ai pratiqué un peu de badminton et j'avais ce défaut puisque je jouais aussi au tennis.
D'avoir le bras. Qui
voilà. Et on me disait toujours, toi, tu as fait du tennis.
Ah, oui.
Parce qu'on a ce poignet, c'est vrai, voilà. Surtout quand on slice ou qu'on fait certains mouvements. Quoi.
Alors, donc, le badminton, les qualités, c'est l'explosivité. Quelqu'un qui est explosif.
C'est ça, comme moi.
Voilà. Va être tout de suite à l'aise au badminton. Après, c'est sûr qu'au tennis, il y a de grands gestes, des grandes préparations, alors qu'au badminton, c'est un geste très court, juste uniquement le poignet. De toute façon, au badminton, on ne se blesse pas à l'épaule. C'est toujours le bas du corps qui subit.
Les genoux, parce qu'il y a les
jambes,
arrêts.
C'est vraiment, tout part sur le bas du corps. Après, j'ai envie de dire, la première qualité d'un baddie, c'est sa convivialité, son esprit d'équipe, parce que ça reste quand même un sport plus d'équipe qu'individuel. On pratique plus le double, le mixte que le simple. Mais après, c'est vraiment des valeurs de partage. Et c'est ce qu'on retrouve sur nos compétitions. Les gens viennent, le premier mot qui revient, fait « Ah, c'est sympa ici, c'est convivial, tout le monde joue ensemble. » C'est cet état d'esprit-là qui fait, entre guillemets, qui est notre symbole et ce qu'on appelle l'esprit bad. Voilà.
Parce que quand tu joues au badminton aussi, je pense que tu as peut-être oublié une des qualités, c'est quand même savoir être lucide. Parce qu'il y a quand même, quand tu dois mettre le point.
Après, oui, après, y a une, c'est un jeu d'échecs aussi, c'est un jeu très stratégique qui plaît beaucoup sur ce côté ludique, stratège, où c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus grand, voilà, le plus fort qui va forcément gagner. Le petit malin a toujours sa carte à jouer aussi. Mm-hmm. Et donc, oui, c'est vraiment un sport complet, où aussi bien l'intellect que le physique.
Ouais. Tu parlais du club en lui-même, mais au-delà donc des deux gamins là qui commencent à briller, non, on revient sur le club des Sept Rivières, mais je sais qu'il y a aussi toute une filière qui s'est mise en place avec des entraîneurs diplômés maintenant.
Voilà, c'est ça, on a réussi à développer Alors c'est très compliqué, la grande différence où le tennis a, chaque club de tennis a son prof, son brevet d'état pour fonctionner. Nous au badminton, quand on fait un cours pour 30 personnes, quoi. On ne fait pas un cours pour 4 personnes, donc c'est très difficile d'avoir des brevets d'état dans les clubs. Donc la fédération a développé sa propre filière d'entraîneurs bénévoles de manière fédérale, et c'est nous là-dedans qu'on s'est formé. Moi j'étais le premier à passer mes diplômes, donc d'entrée en formation, d'entraîneur bénévole niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Et là, les jeunes derrière, on forme les jeunes à suivre cette même filière pour nous aider à encadrer et de proposer aux parents et aux enfants une structure ou d'accueil où les enfants sont encadrés par des entraîneurs bénévoles mais diplômés, formés par la fédération. Donc c'est un gage de qualité qui va nous permettre d'avoir le label école de bad, quoi.
Et comment tu en es venu, toi, du tennis au badminton, parce que bon, c'est pas tout. Bon, il y a un terrain, il y a un filet. Alors, mais après le reste.
J'y suis venu pas pour le jeu.
Pour la bringue.
C'était juste un constat en fait d'un besoin qu'il y avait. En fait, mon garçon faisait du badminton à l'AS du collège. Et la dernière journée d'AS, le prof a proposé de faire une rencontre élève-parent pour clôturer l'année. Mon gamin m'a demandé si je voulais aller participer. J'ai dit oui, pensant que voilà, on allait être 4 parents et 6 gamins. Et quand je suis arrivé, il y avait plus d'une cinquantaine de personnes. Donc déjà, j'étais un peu surpris de l'effervescence, de la volonté des gens de participer à cette activité.
Donc c'était un sport fédérateur, en fait.
Un sport très fédérateur. Et puis, on a commencé à jouer et plus personne ne voulait s'arrêter, quoi. Et en sortant de cette soirée, je suis rentré chez moi, j'ai dit je vais créer un club de badminton à Bédarrides.
C'est un peu ce que tu dis là, c'est un peu ce qu'on retrouve lorsqu'il y a le Téléthon, par exemple. Je me rappelle dès la première année de ta première année d'existence où je me rappelle, tu avais créé une animation au gymnase là-haut à Béda, où tu attendais quelques personnes, et puis finalement ça a rempli le gymnase et ça s'arrêtait plus, alors que c'est plutôt un bon signe pour.
Après c'est un sport où on s'amuse de suite, quoi. On est de suite en réussite, que qu'on soit petit, grand, on peut tout de suite jouer avec ses enfants. C'est très facile d'avoir des premiers échanges avec des enfants. Et on sait que l'importance d'un enfant de 4-5 ans d'être en réussite sur ses premières séances. On sait très bien que
de prendre son pied immédiatement, ça leur donne envie de revenir, contrairement à d'autres sports.
Moi j'ai vu par le tennis, c'est un enfant qui arrive à 4 ans avant de pouvoir taper une balle correctement,
ouais,
ça peut très vite le dégoûter. Alors que au badminton, on a cette chance d'avoir le volant qui va pas très vite au départ. Et de réussir à renvoyer le volant. Et là, on voit dans les yeux des enfants, dire ouais, j'ai renvoyé le volant, et rien que cette réussite, disent ah ouais, moi je veux continuer à faire du badminton.
Et à haut niveau, le volant, c'est quelle vitesse du coup? Parce que tu parlais juste comme ça.
Alors à très haut niveau, pour donner une idée, en sortie de raquette, je parle, ce match de haut niveau, ça peut aller à 350
km/h. 350 km/h Oui, c'est pas mal.
Et alors
je voulais revenir sur le badminton. Est-ce que l'engouement n'est pas dû aussi parce que le badminton, on le pratique sur les plages?
Alors ça, c'est l'image qu'on a tous.
Voilà.
Mais
en vacances, essentiellement.
Sujet sensible.
Pas sujet sensible, parce que justement, la fédération essaye aussi de développer le...
Une espèce de beach ou un truc comme
beach,
ça.
Le air badminton, pour jouer en extérieur aussi. Oui, on a tous joué au badminton au collège. Parce que c'est fait partie des cycles du sport. Et à la plage, à un moment donné, on a tous pris une raquette de bad et joué. Donc on a tous cette image de plaisir.
De sport loisir.
Et donc c'est la première chose qu'on vient rechercher dans un club. C'est pour ça que la convivialité, c'est une des choses à conserver pour le badminton, parce que tous les gens reviennent, nous disent ah mais si, moi j'en ai fait au collège, ou moi si j'en ai fait cet été, c'était vraiment sympa. Et c'est ce qu'ils veulent retrouver. C'est cet esprit-là qu'il faut garder. Après, certains iront plus vers la compétition et d'autres vont rester plus dans le loisir, dans la convivialité. Et c'est là que les associations doivent faire très 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 attention de pas mettre de côté ces gens-là en disant moi je veux faire du sportif, je veux faire des champions. Les champions, il y en a qu'un ou deux, des amateurs.
Des popofs, il y en a qu'un ou deux.
Voilà, c'est ça. Et par contre, les autres, ils sont 95% du club, quoi. Donc.
Alors, justement, on va revenir sur l'aspect convivial, participatif, etc. Dans un petit moment, après que Théo, s'il dort pas, nous ait mis une petite page musicale. Théo, applique-toi, c'est ta dernière, fais gaffe.
rentrer.
Sur RTVFM.
Nous voici de retour au studio après ce fantastique, cette fantastique page musicale de Théo. Oui, en fait, Théo, c'est ta dernière ce soir et tu as décidé de flinguer le truc, de faire n'importe quoi. Tu, en fait, là, la musique, tu avais déjà fait des conneries, mais là, comme celle-là, non, jamais.
Jamais autant. Mais non, mais. Quand non, on non, est dans non, le domaine mais... du sport, là, quand on écoute cette chanson, t'as envie de faire du sport.
Ah ouais, mais là, tchik-tchak, là, j'ai surtout envie de me lever, de t'emplâtrer, en fait.
Tu veux nous le faire, le tchik-tchak?
Ah, tu fais le malin, en plus. On va régler ça, Théo. Ne t'inquiète pas, on va régler ça. En plus, j'ai l'autorisation du patron qui est dans le bureau juste à côté. Je vais te tordre. Allez, revenons plus sérieusement avec Dimitri, notre invité. Et Valérie qui voulait poser une question intelligente, Valérie.
Je pose toujours des questions intelligentes.
Je sais, c'est pour ça que je précise.
Non, je voulais demander au niveau des points, comment ça se calcule? Est-ce que ça se calcule comme le tennis, comme le volley ou le tennis de table?
Alors, on par est point, plus sur un profil comme le volley, de 2-7 gagnants de 21 points, où on marque à chaque service, que ce soit nous qui servions ou l'adversaire. Avec 2 points d'écart quand on arrive à 20-20 et on ne peut pas dépasser 30, donc au maximum 29-30 sur les 7.
Ça c'est mauvais ça, 29-30.
Quand on arrive là, ouais, c'est un peu tendu.
Déjà c'est fatigant déjà.
Voilà, c'est ça.
Parce que c'est quand même long.
Oui, un match assez rapide quand même, c'est un match qui dure 30 à 45 minutes, pas plus.
Mais tu peux avoir 5-7 quand même.
3-7 maximum.
3-7 maximum.
2-7 gagnants.
2-7 gagnants de 21.
Eh ben.
Mais 2-7 gagnants.
Ça veut dire que le premier arrivé à 2, il a gagné, mais si t'es à 1.
Voilà, y a oui, pardon. Oh là là, je calcule mal. Moi, je suis comme au tennis. Là, je partais sur le tennis en 5-7
gagnants. Nous, la
tu te
différence...
théoïses, Valérie.
Oui, je peux faire théo. Oui.
La différence par rapport au tennis, c'est qu'une compétition se passe sur une seule journée. Donc, au maximum, on peut faire 8 matchs par jour.
Ça doit piquer quand même quand tu as joué 8 fois 42 minutes.
Ça
doit être bien.
Quand on arrive au bout, ça commence à.
C'est physique comme sport. Mais est-ce qu'il faut une grosse prépa physique, par exemple?
Oui, celui qui veut jouer à haut niveau, comme nos jeunes qui jouent presque au niveau qui jouent des compétitions nationales, ça demande un engagement physique assez important, quoi. C'est vraiment répétition d'accélération, de sprint très court. On fait plus de distance que dans un match de tennis. Un échange peut durer, pour un exemple, au tournoi international de Paris cette année. Le premier échange de simple a duré 60 coups sur le premier point.
D'accord.
Donc ça met tout le monde dans le rouge d'entrée.
Ouais. Et ça détend tout le monde.
Voilà. Et derrière, avec une intensité, il y a pas de temps mort. C'est pas comme au tennis. À un moment donné, on va pas faire un chop pour ralentir. Ça va toujours à 10 000. C'est que de l'attaque défense.
L'intensité, ça ressemble un peu au ping-pong finalement. Ben, on voit des coups comme ça au ping-pong où c'est beaucoup d'accélération,
c'est d'accélération, de réflexe. Ça va.
Et des coups qui ne finissent pas aussi.
Voilà, c'est ça quoi. Avec des figures un peu acrobatiques, des relances entre les jambes, derrière la tête, un peu comme on peut, des moments comme sauf qui peut, mais c'est très 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 explosif et très intense. Et en double, ça va encore plus vite parce que les joueurs sont vraiment prêts l'un de l'autre. Et ça demande beaucoup de réflexes.
Et tu disais, c'est très rapide, ils font pas d'amortis, rien du tout comme
au tennis. Alors si, il y a les amortis, les contre-amortis pour faire tomber le volant juste derrière le filet. Mais on arrivait à un niveau où il y a tellement de maîtrise dans cette zone-là que on n'y va plus quoi.
Mais d'accord. Donc c'est
très agressif, très milieu du court et ça demande beaucoup de réactivité.
Donc puissance voilà, à droite, à gauche.
Agilité voilà. pour se déplacer. Quoi. Mm. Tout est un art du déplacement. Quoi.
D'accord.
Oui. Et si on passait sur l'autre volet très intéressant de la présence de Dimitri, c'est-à-dire maintenant on a vu le sportif, j'aimerais, Dimitri, que tu nous parles de l'engagement du club, j'allais dire de ton engagement, mais non, c'est l'engagement de...
C'est l'engagement du club,
du club.
Le projet du club.
C'est deux volets, d'abord la partie associative en elle-même, je sais que le volant des Sept Rivières est très 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 impliqué dans la vie de Châteauneuf-du-Pape, de Bédarrides
et de
Courthézon. Raconte-nous, parce que on te voit de partout en fait, on te voit, il y a le 14 juillet, il y a la buvette voilà. Tenue par les Sept Rivières, il y a le Téléthon, c'est la buvette tenue par les Sept Rivières, l'autre fois le marché de Noël, c'était la même.
Voilà, on essaye de... On a pour but de participer à l'animation de nos communes. On est convaincu que le milieu associatif doit être un des moteurs des animations de nos villages. Donc, dès qu'on peut apporter quelque chose, participer à une action d'une municipalité ou faire un échange avec d'autres associations, parce qu'on essaye d'être très ouvert,
de fédérer
et d'être ouvert avec les autres associations, de leur montrer que voilà, c'est pas en restant chacun dans notre coin qu'on va faire quelque chose d'amusant et d'intéressant. On participe, donc on a pour but on est coordinateur et organisateur du Téléthon sur la commune de Bédarrides. On participe au Téléthon sur la commune de Châteauneuf-du-Pape. On organise des animations avec les autres associations aussi bien culturelles que sportives. On travaille beaucoup avec les centres aérés sur le recyclage de nos matériaux.
On y arrive.
On participe dans les écoles en leur amenant notre expertise, notre vision de l'éco-responsabilité. Dès qu'il y a une animation dans le village, si on a besoin de nous, on essaye de répondre présent et on essaye d'organiser beaucoup de manifestations extra-sportives pour fédérer, qu'on ouvre au plus grand monde.
Quoi. Ouais, c'est super convivial, notamment la soirée bas des Vins, par exemple.
Ça, c'est un de nos. Voilà, où tous les clubs, entre guillemets, leur grand événement, c'est.
Un grand tournoi, un truc de fou.
Nous, notre grand événement, c'est la semaine du développement durable, avec en ouverture de cette semaine la soirée bas des Vins à Châteauneuf, où on mélange. Les mets locaux avec le badminton, ça fédère.
C'est pas trop bon non plus, hein. Le vin et le badminton.
Ah ben si.
C'est le même bouchon. Il y a du liège.
Il y a du liège.
Il voilà, y a du liège.
Voilà.
Mais ça, le bouchon.
Mais ça fédère. Beaucoup autour, aussi bien les gens qui pratiquent le badminton que ceux qui veulent découvrir une soirée associative. Alors on l'ouvre à tous. Et cette soirée, c'est une participation libre où les fonds récoltés généralement sont reversés à une association. L'année dernière, on l'a reversé à une joueuse de handibad qui partait au championnat du monde à Taipei. Ça nous a permis de récolter 800 euros et de lui faire un chèque de 800 euros pour permettre de réaliser son rêve d'aller jouer les championnats du monde de handibad, quoi. Donc on a aussi cette vocation associative et solidaire.
Et cette jeune femme fait partie du club ou non pas du tout.
Pas du tout, non.
Bien sûr que non. C'est là le truc sympa de la démarche, c'est que derrière chaque action que mène le volant des Sept Rivières, il y a toujours derrière
un levier social ou
une bonne idée, en fait, un truc complètement désintéressé. On parle, il parle de cette nana là qui est partie faire les championnats du monde à Taipei, mais au-delà de ça, pour fréquenter Dimitri, pas tout le temps, mais pour le croiser régulièrement, il y a toujours derrière l'envie de s'investir dans la vie des communes concernées, de rendre service, de dynamiser le truc. Et alors, je vais arrêter les compliments parce qu'on va croire qu'il m'a payé pour ça, mais voilà, il y a toujours derrière, sous-jacent, l'idée de faire quelque part le bien.
Et d'apporter quelque chose.
Ouais, c'est ça. Et une partie très importante aussi de ton action, tu en parlais tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est développement durable.
Tout ce qui est développement durable, il y a 3 ans, sur une suggestion de notre ligue, d'organiser la semaine du développement durable à Bédaride. Ça paraît assez un peu fou. Parce que voilà.
Ouais, du badminton, c'est vrai.
Bédaride, badminton, développement durable.
Développement durable, tout ne collait pas. Et on a prouvé qu'on peut tout faire, se lier ensemble. Et on a créé le premier forum sport et développement durable, qui a été un gros succès parce qu'on a été suivi par le comité olympique Vaucluse.
Le
CDOS. Et cette action m'a permis, moi et le badminton, entre guillemets, de rentrer en tant qu'administrateur au CDOS dans la commission du développement durable. Parce que le CDOS était assez stupéfait du travail qui avait été fait. Et ça nous a permis.
Monsieur Davos, c'est ça ?
Monsieur Roland Davos.
Ouais, c'est ça.
Ça nous a permis, avec l'aide, du coup, après d'avoir l'aide du département sur cet événement et l'aide de notre municipalité, plus l'aide du CDOS, donc de faire un deuxième forum l'année dernière qui s'est intitulé Femmes et Sport. À savoir que c'est un forum ouvert à tous, qui est gratuit, sous forme de table ronde, animée par une conférencière journaliste professionnelle. Donc c'est pas vos serviteurs,
c'est une vraie.
C'est pas de l'amateurisme. Les intervenants sont aussi bien de niveau national. On a eu l'entraîneur de Jérémy Azou, qui était champion olympique. On a eu l'intervention de Muriel Urtis. On a un plateau de qualité. On organise une formation gratuite qu'on ouvre à toutes les associations sur le thème organiser une manifestation sportive de manière éco-responsable. Donc, gratuitement, on offre cette formation pour permettre aux associations d'organiser leur manifestation le plus proprement possible. On est intervenu dans les écoles avec des entrepreneurs éco-responsables pour montrer le recyclage dans notre sport, ce qu'on pouvait en faire. Et cette année, on va faire le troisième forum sur le thème changement climatique et les impacts sur le sport, avec du concret. L'année dernière, des compétitions ont été annulées à cause de la canicule.
Ouais, là, pour le coup, et les championnats du monde à Doha.
Les championnats du monde d'athlétisme, la Coupe du monde au Qatar, qu'est-ce que ça va donner ? Les compétitions de ski, là, j'ai vu qu'elle a été annulée, la trans, parce qu'il n'y a pas de neige.
J'imagine que ça, tout ce qui se passe en ce moment, ça fait écho chez toi et ça te donne raison dans ta démarche.
Dans la démarche, je pense qu'on est dans le vrai et on va laisser ça à nos générations futures. On a la chance que ces générations prennent les choses à bras le corps. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les écoles, les départements, les régions qui essayent de sensibiliser. Maintenant, il faut que nous, même si on prend ça tard, il faut le prendre quand même, quoi. Il faut y aller, il faut essayer de changer les choses en améliorant les choses. Nous, à notre échelle, on essaye de montrer aux gens la voie à suivre. C'est peut-être pas la meilleure, il y a peut-être d'autres idées, mais tous ensemble, on aurait plus d'idées. Peut-être, et c'est là qu'il faut fédérer nos associations et de dire, nous, on est prêts à aller aider une municipalité qui nous demanderait, tiens, vous êtes leader là-dedans, qu'est-ce que nous, on peut changer dans notre municipalité, dans notre fonctionnement, pour être un peu plus propre ?
Mais est-ce que tu crois pas que quand même au niveau, je parlais argent, hein, les sports très médiatiques, ils en ont que faire de l'éco, on va dire, de l'écologie.
Je pense pas qu'ils en ont.
Parce que on prend l'exemple, ce qui énerve un petit peu mon époux entre guillemets. Je regarde le biathlon et les 3/4 du temps ces dernières années, il n'y a pas de neige. Donc ce sont des canons à neige,
voilà,
qui sont uniquement pour quelques compétitions.
sont donc, obligés de fonctionner.
Ouais, donc les nappes phréatiques, et c'est contraire complètement à tout ce que tu viens de dire.
Au-delà de ça, il y avait 2000 bouches d'aération, de climatisation à Doha.
C'est exactement pareil.
C'est parce que c'est médiatique,
ça rapporte de l'argent, c'est ceci. Donc, quelque part, tout ce que vous faites, c'est-à-dire que ce sont les petites associations qui font.
Et le fauteuil de Valérie qui est encore tombé pour la centième fois en deux saisons.
Je mets le pied en dessous à chaque fois. Donc c'est ça, c'est les petites associations qui font beaucoup. Et on voit au niveau national, même international, sur des sports très médiatiques où rien n'est fait, quoi. Au contraire, on va utiliser des canons à neige.
Après, je pense pas que rien n'est fait. Je pense qu'on est en train de changer les choses. Il y a les Jeux Olympiques en 2024 et le volet éco-responsable est énorme. Sur ceux qui ont pu lire le projet, nous on l'a lu, c'est vraiment une part très importante et un engagement sincère, je pense, du comité olympique de faire de ces Jeux les Jeux les plus propres possibles.
Les premiers, mais on avait déjà dit ça... pour Pékin, on avait déjà dit ça pour.
C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on est.
Mais tu sais, à l'époque, en 2000, je me rappelle, j'étais à Sydney 8 jours avant le début des Jeux. Et déjà, on parlait de jeux éco-responsables et de jeux. Ils appelaient ça bio-friendly. Et pourtant. Ça fait 20 ans, quoi.
Oui, mais il faut. C'est pas des choses qui se mettent facilement en place parce que c'est pas dans les mentalités des gens. C'est tellement simple de jeter. Ça va très loin, l'éco-responsabilité. Nous, on va faire un tournoi qui va être un tournoi EcoBad. Notre priorité, ça va être sur les produits locaux de la buvette. C'est-à-dire qu'on veut. Déjà, au club, ça fait 3 ans, il n'y a jamais de Coca, de Fanta, de boissons gazeuses. On travaille qu'avec les vignerons, les agriculteurs locaux, pour avoir que des produits locaux.
Il y a des bons jus de fruits.
Voilà,
locaux,
c'est ça. Hein,
le jus de raisin, les nectars d'abricot.
On a tout autour de nous pour faire des...
Ah, mais je partage ton point de vue.
Ne serait-ce que des buvettes locales et co-responsables. C'est-à-dire que c'est... C'est sûr que c'est un business d'une buvette. On dit une buvette, ça fait rentrer de l'argent. Tout à fait d'accord. Mais nous, on n'a pas envie de sacrifier. On prend l'exemple du croque-monsieur. C'est facile d'aller chercher un pain de mie à la grande surface du coin, une 34 tranches de jambon à 2 francs 6 sous, et de vendre ça à 1,50 euros et de marger.
Comme un sauvage.
Bah nous, on a pris la décision de dire on va aller à la boulangerie du village, on va chercher le jambon du boucher du village. Oui, le croque-monsieur, il sera plus cher.
Mais meilleur et plus responsable.
Ce que vous allez manger, ça vient d'ici, quoi. Ça fait travailler aussi bien l'économie locale. Et il faut qu'on garde ça dans un coin de notre tête.
Tu te sens pas un peu, des fois, dans. Comment te dire comme marge. Une espèce de lanceur d'alerte
il faut qu'on ait ces positions là quand on est moi je suis convaincu du bienfait de ce fonctionnement donc il faut qu'on ait pas peur de le mettre en avant. Maintenant j'ai l'impression que les associations sont gérées comme des entreprises, on parle que d'argent. Il faut faire de l'argent, mais il faut pas oublier que le but d'une association, c'est de pas faire de bénéfices, quoi. Donc à un moment donné, il y a une contradiction entre la façon dont on gère les associations et le message du milieu associatif en lui-même, quoi.
Un dernier mot sur ton sport à proprement parler. La dernière action en date là, c'est de recycler les volants. On disait tout à l'heure que des fois un volant c'était pour un point.
Voilà, à haut niveau, un volant peut être utilisé un point. Donc, quand on sait qu'il peut y avoir
60 coups,
donc le volant, on va faire le point total et à la fin, on va le jeter. C'est un vrai consommable dans notre discipline. C'est une fois qu'il est abîmé, il est jeté à la poubelle directement. Il n'est pas recyclé parce que trop de composants, du liège.
Est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de travailler en amont plutôt qu'en aval, c'est-à-dire avoir l'intelligence de fabriquer des volants avec une autre matière.
Il y a un travail qui est fait de ce côté-là, un travail de recherche qu'on appelle les volants hybrides, où on va dissocier le volant en une partie plastique et une partie plume. Mais voilà, les caractéristiques du jeu font que pour garder une qualité de jeu optimale, il faut qu'on garde certaines courbes de déplacement du volant, une certaine vitesse. Et ça, c'est pas forcément facile. Un volant de badminton, ça pèse 5 grammes. Et il faut que dans ces 5 grammes, on arrive à y mettre tout ce qu'il faut.
Ouais, bah
justement, est-ce que tu peux nous dire de quoi est fait le.
Il l'a dit, t'avais qu'à écouter tout à l'heure, il l'a dit en off.
Oui, mais il l'a dit en off. Non, mais je l'ai entendu. Moi, je l'ai entendu en off, mais je veux qu'il le dise à l'antenne.
Alors, le vrai volant de badminton, il est fait d'un bouchon en liège, de 16 plumes d'oie, tout le tour. Relié, collé au bousson de liège avec de la colle de riz, de la ficelle et de la colle de riz encore pour solidifier la tenue des plumes. Donc une fois qu'il est abîmé, on le jette. Donc nous, on a décidé d'essayer de travailler avec des sociétés qui recyclent les volants. Et donc on travaille avec une société qui s'appelle Compoplume, qui récupère nos volants usagés, qui les broie et qui en fait... un matériau design pour de l'ameublement.
D'accord. Et pour toi, donc Ecoplume, c'est les fameux cartons qu'on voit
voilà,
sur ton
ça,
site.
Voilà, c'est ça. C'est les cartons de collecte de volants qui nous permettent de collecter 300 volants, 300 à 400 volants qu'on réachemine lors d'une collecte. Et voilà, c'est là aussi le démarche éco-responsable. C'est-à-dire qu'une fois par an, ils passent dans la région collecter tous les box pour pas faire trop de transport. Et du coup, cette personne, après, recycle nos volants et ça nous permet de pas les jeter à la poubelle et sont réutilisés.
Et tout à l'heure, tu disais justement aussi en off qu'au niveau de la fédération, enfin de la fédération, on parle vauclusienne, du côté Vaucluse.
Voilà,
déjà.
Du coup, le comité Vaucluse s'est saisi de cette action-là en investissant dans ces box et en les redistribuant aux clubs du Vaucluse pour que chaque club ait cette démarche déjà de recyclage des volants et d'essayer déjà de faire de moins de déchets. Mmh. Après, nous, on travaille aussi avec les centres aérés, les écoles, en leur donnant les volants, en leur proposant d'en faire des œuvres artistiques qui seront présentées lors de la semaine du développement durable, qui seront un peu élue œuvre, la plus belle œuvre de recyclage et qui permettra de les conserver en tant que vitrine dans les communes, dans les mairies.
Est-ce qu'on peut aussi espérer un jour voir ces fameux, on va dire, cartons éco, je sais plus comment tu appelles ça,
éco-responsables,
carrément, lors de grandes manifestations de badminton.
Alors oui, ces manifestations, il faut savoir que la plus grande manifestation de badminton en France, c'est ce qu'on appelle les IFB, les Internationaux de France, à Paris-Coubertin. C'est une manifestation sportive 100%. Éco-responsable, c'est-à-dire que il y a un travail qui est fait au niveau du recyclage des bouteilles d'eau, des volants, des tubes de volants. Il y a un stand qui s'appelle Boîte à part qui récupère les tubes de volants usagés. Il en fait de la marqueterie dessus pour en faire une boîte qu'on garde toute sa vie. Il y a au niveau des transports, tout est fait pour que la voiture soit pas utilisée. C'est transport en commun, c'est le bus. Il y a des amendes pour ceux qui viennent en voiture directement, ou alors les parkings des voitures se trouvent à 4 ou 5 kilomètres du lieu de la manifestation. La fédération est leader dans le domaine de l'éco-responsabilité. On est signataire de la charte pour les Jeux Olympiques et c'est quelque chose très important pour notre fédération.
Et est-ce que ça pourrait se développer sur les autres fédérations, comme le tennis?
C'était la question, ça, oui. Sur le tennis, par exemple, on sait qu'on change les balles tous les 7 jeux, me semble-t-il.
Voilà, c'est ça.
Ça fait des balles, un nombre de balles monstrueuses qui sont jetées ou rendues au club, en tout cas.
Toutes les fédérations essayent de suivre le mouvement. Par exemple, au tennis, les balles usagées sont utilisées, broyées pour faire ces fameux sols de genre qui bolent. Donc, il y a aussi cette démarche-là. Il faut passer par là. Il faut essayer de réduire ces impacts écologiques parce qu'on ne s'en sortira pas avec tant de déchets. On a des disciplines, malheureusement, qui faisons du déchet. Maintenant, à nous d'être intelligents et d'en faire une force.
Eh bien, écoute. Tout ça est de bon augure. En tout cas, Dimitri, merci pour cet échange. Je crois merci qu'on aurait pu en parler encore pendant 3 heures.
On voit un passionné.
Ouais. Ben, on voit un passionné et au-delà de ça, on voit un mec qui réfléchit. Ben,
bien sûr.
Une fédé en général qui réfléchit et qui arrive à transmettre ça à ses adhérents.
Non, mais c'est bien d'être appuyé par justement une fédération.
Voilà, c'est très important. On a la chance, nous, en PACA, d'avoir.
Et puis le GDOS aussi, qui derrière.
Le GDOS.
Finalement, vous êtes le bas des toits, vous étiez fait pour se
rencontrer.
Mais non, mais clairement.
Oui, non. Après, ouais, c'est une discipline qui est faite, qui permet. Voilà, de développer nos propres valeurs. Ça représente bien nos valeurs qu'on a. Donc, on se retrouve bien dans ce sport. Quoi.
Les prochains événements sur le volant des 7 rivières ?
Alors, le prochain grand événement, c'est qu'on va être, en tant que leader du développement durable, on sera leader de la commission, parce que les championnats de France jeunes seront organisés à Miramas cette année. Donc, c'est le club qui s'occupera de la partie développement durable de la compétition. Et après, ce sera notre troisième forum qui se déroulera donc le 6 juin au théâtre de Bédari. Donc, on vous invite tous à venir voir comment ça se passe.
Oui.
Bonne nouvelle.
Oui.
Moi, j'y serai.
Oui. Voilà.
C'est en dessous de la maison, donc j'y serai. Dimitri, merci. Merci
à vous
pour ta présence. Il nous reste 10 minutes d'émission. On va survoler les résultats. Apparemment, on n'arrive pas à avoir notre invité téléphonique. Il y a un petit souci au téléphone. On va balancer les résultats. Si tu veux intervenir, surtout ne t'en prive pas.
Voilà.
Et puis on terminera par le coup de gueule de la semaine.
Allez, on va commencer avec le basket. Je vais commencer avec le basket de Carpentras. Qui finira avec celui de Sorgue. En pré-national, filles, Carpentras-Sorgue, donc rencontré Côte Bleue. Et Carpentras, donc, c'est incliné, 40 à 69. En senior garçon, Carpentras se rendait à Entraigues. Et la Carpentras, là encore, s'est inclinée, 37 à 67. On a un peu l'habitude cette année. Hein, les Carpentrasiens, c'est pas terrible au niveau du basket. En senior filles, Carpentras se déplaçait à Lille sur la Sorgue. Et là encore, Carpentras s'est incliné, 43 à 61. En U20 région, Carpentras se déplaçait à Cabrières-Calas. Et là encore, Carpentras s'est incliné, mais de très peu, 68 à 71. En U20 département, Le Thor recevait Carpentras et Le Thor a mis une raclée, c'est le cas de dire, à Carpentras, 102 à 50. Et en U18 filles, Carpentras recevait Bolène. Et la Carpentras a gagné 57 à 54. Donc, il y avait du basket à Sorgue.
Ouais.
Voilà.
Du basket à Sorgue.
Enfin, Sorgue se déplaçait, en fait. Sorgue se déplaçait, c'est ça ?
Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Oh, ben...
Une fois de plus, Sorgue...
Ils ont fait le même match que d'habitude. Ils ont pris une vraie rouste. 72 à 57.
Oui.
On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas un fonctionnement qui perd.
Ils jouaient contre hier Toulon.
Ouais, ils étaient dans le Var. Et une fois de plus, ils ont pris une dérouillée, nos amis Sorguais. J'ai vraiment la colère, en fait. Et chaque semaine me met un petit peu plus la colère parce que j'adore ce club.
Mais là, ils commencent à être vraiment dans le bas.
Ils sont dans le bas du bas, puisque.
Voilà, relégable.
Ils sont 12e, 21 points. 5 victoires depuis le début de la saison, 11 défaites pour 16 matchs.
Oui.
Et voilà, n'oublions pas que c'est un club qui jouait encore l'an dernier en National 1, qui a fait un parcours de folie en Coupe de France de basket. Et voilà, et là, j'arrive pas à me persuader que ce club.
Mais si les joueurs sont partis, si la plupart des joueurs.
Les joueurs sont partis parce qu'on n'a pas essayé de les retenir. Et le nouveau bureau de ce club. Parce que
ça pourrait être ton coup de gueule aussi.
Ah, mais c'est mon coup de gueule permanent. C'est mon coup de gueule permanent parce que à côté de ça, on voit le club d'Avignon-le-Ponté qui a fait le chemin inverse, qui était en National 3 l'an dernier, qui s'est structuré de manière correcte. Alors on aime, on n'aime pas. Je suis pas fan du président, lui non plus. Mais en tout cas, force est de reconnaître qu'il a compris comment ça fonctionnait. Il a su s'entourer de compétences et puis ils fonctionnent. Ils sont aujourd'hui, ils sont 5e en National 1 pour un club qui monte de National 3 et ils ont des ambitions d'évoluer rapidement en Pro B. Je suis pas fan encore une fois de Monsieur Martin, mais bravo à lui, il fait un boulot monstrueux. Alors que du côté de Sorgue, j'ai l'impression qu'on regarde le club se casser la gueule et sans bouger, et ça m'énerve.
Et je pense qu'ils vont mettre du temps à se remettre.
Ça reviendra plus jamais.
Parce que
l'année prochaine, ça sera en National 3 ou en Régional. Et voilà, Dimitri, un mot là-dessus, non ?
Non, pas.
Allez, ça va, on change.
Quelque chose que je suis.
On change, ça m'énerve.
Allez, je passe du handball avec les filles de Mazan en National 2. Elles recevaient Aix-en-Provence et elles ont gagné 38 à 24.
Ouais.
Ça les a maintenus, quatrième place.
Ouais, superbe match des filles de j'allais dire Pascal Vassé, ouais, voilà. Et de l'ensemble du staff de Mazan, mais voilà, les nanas, elles ont raté la montée clairement. Maintenant, elles avaient affiché leur ambition de monter. Et puis finalement, eh ben, même la montée est ratée, elle continue l'effort, elle continue à s'y filer, et c'est plutôt une bonne chose pour ces filles.
Et la semaine prochaine, elle rencontre Antibes, donc elle se déplace là-bas. Allez, je viens en rugby à 13, en élite 2. Carpentras, donc, s'est déplacé à Toulon, et Carpentras l'a emporté 30 à 19. Il y avait aussi Entraigue qui recevait Bao, et ben Entraigue s'est incliné 24 à 25.
Ouais, complètement à la fin. Une défaite qui fait mal aux Entraiguois, puisque avec ce match-là, cette victoire-là, si elle avait été acquise, ça les gardait dans le top 4, dans le top 5. Et puis là, voilà, les Entraiguois qui décidément n'y arrivent pas. On a vu par le passé ces Entraiguois qui arrivaient à gagner ces matchs-là, un peu à l'image des filles de Mazan, c'est-à-dire qu'il y a des saisons où ces matchs-là, tu les gagnes facilement, enfin facilement, tu les gagnes. Et là, bizarrement, eh ben, ça tombe toujours du mauvais côté, la pièce, elle tombe toujours du mauvais côté. C'est dommage, parce que l'effectif Entraiguois est sympa, le club est sympa, et ça fait du bon boulot, mais voilà, ça veut pas. Malheureusement pour eux, ça veut pas. C'est dommage, mais ils vont continuer à bosser, ils vont y arriver, c'est sûr.
Il y avait aussi un autre match, Salon Villefranche-Aveyron, 26 à 46. Donc Villefranche est premier au classement général, hein, suivi de Carpentras, mais Carpentras a un match de retard. Il y a Île-sur-Tête, donc, qui est troisième. Entraigue est septième avec 19 points, donc très loin des premiers, on va dire.
Hein. Ouais, très loin des premiers, malheureusement. Ça commence à sentir un peu le roussi pour la qualif du côté d'Entraigue, mais ils vont y croire. Les entraîneurs Rue et Scaramuza vont continuer à bosser, aucun doute là-dessus. C'est un peu une espèce d'année de transition. Il faut aussi savoir que du côté d'Entraigue, il y a eu quelques départs. Il y a des joueurs qui sont partis au Thor. Il y a un club qui s'est monté au Thor avec un effectif de folie. Un ou deux joueurs d'Entraigue aussi a signé au SOA. Oui. Je pense notamment au petit Roupin qui est un excellent joueur qui manque clairement dans cet effectif entraigois. Et ben voilà, malheureusement pour les Entraiguois, ça, ainsi va la vie.
Et c'est vrai que ça déséquilibre vite une équipe. Hein,
ben ouais, un ou deux éléments de valeur, c'est important.
Allez, en élite 1, Palau recevait Avignon, et Avignon s'est incliné 28 à 40. Il y avait aussi Limoux qui recevait Toulouse, 52 à 6. Bon, au classement général, Limoux est toujours premier, suivi d'Avignon. Donc là aussi.
Ouais, il n'y a pas le feu à la maison, mais ça fait trois matchs d'affilée où il n'y a pas de victoire. Les Avignonnais qui sont dans le dur, pareil. Beaucoup de blessés, beaucoup de pas de chance. Il y a un peu de tout, et puis probablement que le début de saison du SOA a été un peu l'arbre qui cachait la forêt. On les attendait pas à ce niveau-là, les Avignonnais, ils y sont, tant mieux. Ils sont toujours seconds après 10 matchs joués, mais voilà, il va falloir vite remettre de l'ordre là-dedans et espérer de renchaîner avec une victoire ou deux.
Je vais faire une petite aparté là concernant le football avec Grand Vaucluse en D1, donc Carpentras, Haute-Provence de partout. Carpentras au classement général est avant-dernier, 11e, donc très 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 loin des premiers. En D2, Altin monte 2-0, Sorgue Perne 0-3, au classement général Perne est 2e, suivi de l'Île La Sorgue et Monteux est 10e. En D4, bah, nos amis de Serres.
Alors, comment ils vont, nos amis serrois?
Bah, ils ont perdu.
Mais ça.
Ouais, ils ont perdu.
Ce coup-ci, la montée s'est cramée.
Ouais, non, mais bon, ils ont perdu, mais c'est pas grave. Ils sont quand même, je suis en train de chercher, Malocène-Serres, voilà, 4 à 2. Et Serres est 5e au classement général. Bon, une petite déception. Parce qu'ils auraient pu, mais bon, quand même, Malocène est avant eux. Donc les troisièmes, ils se maintiennent aussi. Hein. Sinon, en D3, poule B, j'ai dit Rasto, Perne, 3 à 2. Donc Perne est quand même dernier au classement général.
Perne, Sorgue, basket, même combat, j'ai l'impression. Mais au moins les Pernois prennent du plaisir, eux, ils se régalent. Alors que du côté de Sorgue, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Hein.
Non. Et puis je voulais revenir sur le match du tournoi Destination, le 15 de France. Alors, je vois de partout, le 15 de France a conquis un deuxième succès en deux matchs face à l'Italie, 35-22. Mais pour avoir vu le match, je n'ai pas trouvé que c'était du beau rugby comme la semaine d'avant.
À l'époque, il y a encore un an ou deux, ces matchs-là, on les aurait perdus, oui. Valérie. Donc, il ne faut pas être gourmand, machin, truc. Moi, je trouve qu'il y a plein de points positifs dans ce match-là. On voit des jeunes qui éclosent. On voit un entraîneur qui n'hésite pas à garder le même groupe.
Oui, mais c'est quand même assez incroyable la différence de jeu avec la même équipe qu'il y a eu entre la semaine dernière et cette semaine.
Ouais, mais parce
et
que
c'était les mêmes joueurs.
Non, on joue pas. On joue pas de la même manière contre l'Angleterre et contre l'Italie sur l'ambi, sur le machin.
Bah, ils se sont laissés, je pense, un peu endormir par l'Italie qui est quand même pas la meilleure des équipes.
Hein. L'Italie a fait contre nous le même match que nous avions fait contre les Anglais, c'est-à-dire ils se sont arrachés, ils nous ont posé des problèmes. Voilà, tant mieux. C'est bien parce que ces matchs-là, il faut aussi savoir les gagner, même si c'est compliqué. On va terminer, Valérie, si tu le veux bien, avec le coup de gueule de la soirée.
RTV Sport, le coup de gueule ou le coup de cœur.
Et ce soir, ça va être un vrai coup de gueule. Je suis sûr que vous le partagez tous. Mais un coup de gueule contre l'omerta dans le sport concernant tout ce qui est attouchement, violence sexuelle. Ça a été mis en lumière cette semaine par les sports de glisse et notamment Guy Haguet, le président du patinage et des sports de glace français, qui a couvert pendant des années les agissements de certains, voire plusieurs coachs. C'est juste intolérable, insupportable. On a couvert ça pendant des années. Alors ça sort là sur le patinage, mais il me semble, Dimitri, tu me contrediras pas, qu'il y a eu un truc comme ça dans le tennis il y a quelques années.
Oui, il y a quelques années. Dans le judo aussi. Oui.
Dans le judo, il y a eu ça aussi en athlée, me semble-t-il.
Aussi, il y a eu.
Voilà, c'est juste insupportable que des entraîneurs qui ont en charge des gamins, que ce soit des filles ou des garçons d'ailleurs, puisque là on parle de filles, mais c'est pas exhaustif. Il y a aussi des petits garçons qui sont victimes de ce genre de comportement insupportable. Mais vraiment, ça me met dans une colère monstrueuse. Je peux pas comprendre qu'on utilise sa position d'entraîneur et quelque part de dominant pour se livrer à des choses comme ça, Dimitri. T'as une idée là-dessus ?
Tout à fait d'accord, c'est un scandale qui a éclos ces derniers temps. C'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau malheureusement.
On a entendu parler. Le problème, c'est que voilà, ils arrivent à mettre leurs victimes sous
les
ténors,
ouais. Ouais.
Et c'est ça qui est vraiment très dur quand on voit Sarah Abidol qui sort ça
20 ans après
et qui est traumatisé, qui en a souffert pendant. Et qui en souffrira tout le temps, quoi. On a juste envie de leur dire, voilà, il faut dire les choses, il faut pas avoir peur, il faut.
Mais c'est quand même assez surprenant quand même, parce que il y a eu le tennis, il y a eu l'athlétisme, il y a eu le judo. Aujourd'hui, c'est les sports de glace, mais ça aurait dû faire réfléchir dès la première fois,
série en cours.
Dès la première fois que ça aurait dû faire réagir toutes les fédérations.
J'ai envie de dire que ça devrait plus exister et presque j'ai envie de balancer un truc là du style balance ton coach à un moment on a balancé
c'est beau,
le hashtag balance ton coach et si on balançait Théo ce soir.
Théo d'ailleurs il est balancé.
Ouais d'abord. Théo casse-toi maintenant. Théo, ce fut un plaisir de cette année et demie passée avec toi tous les lundis soirs.
Oui pareillement.
Menteur. Oh quel menteur.
Non. Tu m'as fait un compliment pour une fois. Je te retourne le compliment.
Non écoute Théo, il nous reste à te saluer. Te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Je sais que tu vas dans une radio ô combien spécialisée.
Où il y a un F, un C, un R.
Voilà. Reviens nous voir quand tu veux, Théo. Le lundi soir, tu seras toujours le bienvenu. Sauf si Alain et Valérie te veulent plus. Mais ça, après,
ça sera
tu te démerderas avec eux.
À la régie.
Mais si tu es dans les parages, surtout, n'hésite pas. Et bon vent, bonne chance. À bientôt, Théo.
Merci.
Allez.
Il nous reste
à nous dire
au revoir et à lundi.
Ah non, moi tu sais que je suis pas là pendant 2 semaines.
Ah ouais, tu m'abandonnes.
Voilà, donc, là, je suis pas là.
Bon, mais écoute, lundi je serai donc tout seul. Je sais pas encore avec qui. On communiquera, mais en tout cas l'émission aura bel et bien lieu lundi soir, 18h-19h, l'émission qui parle du sport.
Bonne soirée.
Bonne soirée.